Oui, donc la dernière fois, je vous ai proposé l'éternité, la vie éternelle dans les psaumes, en particulier dans l'Ancien Testament, et on avait vu que, bon, c'était quelque chose qui était discuté. Certains passages disaient, ben non, il n'y a plus rien après la mort, il n'y a pas d'éternité, il n'y a que la vie présente. D'autres psaumes, au contraire, ouvraient vraiment à une idée de vie future, de vie éternelle, en tout cas, que c'était, il y avait un éventail de possibilités, de visions, de points de vue représentés dans les psaumes. Alors là, maintenant, on aborde, je vais proposer, en fait, dans la première lettre aux Corinthiens, qui est une lettre qui est assez riche et qui a le fameux passage chapitre 15, en fait, qui parle vraiment de ça. C'est un des chapitres qui parle avec le plus de détails sur la manière dont nous serons dans la vie future, en particulier avec quel corps est-ce qu'on ressuscite, quel genre de vie on peut avoir après, etc. Des questions tout à fait mystérieuses, bien entendu. C'est ce que dit Paul, d'ailleurs. Donc j'ai choisi cette première lettre. Cela dit, avant d'entrer dans le chapitre 15, j'ai mis quelques passages avant qui m'ont l'air quand même de parler un peu de ça, qui ont un rapport. D'abord, un peu dans le début de l'épître, si vous voulez, quand Paul parle un peu de la manière dont il peut témoigner de ces choses tout à fait mystérieuses et cachées, voilà. Alors quand on dit mystère, le mystère en grec, c'est plutôt le secret révélé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas et puis qu'on peut... Alors qu'est-ce qui a été mystérieux, qu'est-ce qui a été caché, secret, et puis qu'on a pu découvrir? Eh bien, c'est par l'esprit, nous dit... C'est par l'esprit qui nous révèle les choses, vous voyez, comme dans ce qui est en italique là, qui est une citation dont on ne sait pas trop quel passage d'ailleurs, probablement ce qu'on appelle des apocryphes qui sont entre l'Ancien Testament et le Nouveau finalement, hein, des textes qui ne sont pas rentrés dans le canon mais qui étaient connus à l'époque. Ça peut ressembler à des passages d'Ésaïe un peu, ou quelque chose comme ça. Mais donc, c'est vraiment l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit... Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit qui peut révéler des choses comme ça? C'est pas comme dans les dessins où on tend une table de pierre à Moïse et où, du coup, on aurait une révélation noir sur blanc. L'esprit, c'est le souffle de Dieu, en fait. Parce que le mot esprit, c'est peut-être pas la meilleure des traductions, esprit, pour dire le souffle. Parce qu'esprit, on pense à quoi Ça fait un peu cérébral, l'esprit, non? Ou ça peut faire un peu comme un fantôme? Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, vous voyez, quand on lit esprit. En fait, c'est le souffle de Dieu, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. Ou bien c'est le vent, c'est le même mot, le souffle, le léger vent qui sort de notre... ou qui rentre dans notre narine. Hein.
Mais dans la théologie corps, âme, esprit, c'est quoi l'esprit pour vous?
Mais même corps, âme et esprit, c'est pas tellement des catégories qui sont extrêmement bibliques, en fait, si vous voulez.
Mais
oui, mais même âme, c'est plus un concept grec, parce que dans l'Ancien Testament, ce qui est traduit parfois par âme, nefesh, c'est plutôt le principe vital. Par exemple, on dit que les animaux, c'est une âme vivante, en fait. Or, les animaux, dans la catégorie de pensée, ils n'ont pas d'âme au sens où on pourrait parler de l'âme, ce serait la vie spirituelle. Enfin, bien qu'on n'en sait rien s'ils n'ont pas de vie spirituelle. Sans doute pas comme nous, mais... Quoi ? Ah ben c'est la Genèse, hein, la création des animaux et de l'homme. On dit que les animaux, voilà, c'est des âmes vivantes, des nefesh raya. Et l'homme, pour être âme vivante, eh bien, il est pétri de l'argile du sol. Et Dieu souffle dans ses narines son propre souffle. Ou alors ce souffle, cet esprit, c'est l'esprit qui plane au-dessus des eaux, du chaos, au début de la Genèse, dans la première phrase, dans le premier souffle, j'allais dire. Mais... Donc si vous voulez, l'esprit, c'est pas comme une parole intelligible qui serait dictée, si vous voulez, comme, je ne sais pas, on pense que Mohamed a reçu la révélation du Coran, avec quelqu'un qui aurait un ange qui aurait dicté. C'est pas comme ça, si vous voulez, que parle Dieu. Il dicte pas avec des mots intelligibles comme je vous parle. Il parle avec son esprit, c'est-à-dire que c'est une dynamique de création qui peut ouvrir en nous une conscience, éveiller à une conscience, éveiller à des idées nouvelles. Donc, si vous voulez, c'est, c'est quand même ça, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas si simple que de... Bon, Paul a tout d'un coup été en extase et il y a un ange qui lui a dicté ses phrases. C'est pas comme ça que ça marche. Ou l'inspiration de l'écriture, c'est pas un ange qui prend la main de Paul et puis qui écrit de force. Non, c'est un supplément d'aide, de création, de lucidité, qui tout d'un coup donne à Paul une certaine conscience des choses et ensuite il l'exprime avec ses mots, avec ses paroles. Donc c'était le premier point peut-être. Mais enfin, si vous avez des remarques, vous pouvez tout à fait... L'Apocalypse de Jean, c'est un peu comme une révélation, mais à mon avis c'est pareil, c'est basé sur une expérience mystique, sur une expérience intellectuelle de réflexion, de méditation, et ensuite c'est Jean qui écrit.
Oui, bien sûr.
C'est pas
oui,
les
mots. Non, mais d'accord.
Vous voyez ce que je veux dire.
C'est écrit de telle sorte qu'on peut penser comme ça.
On pourrait penser comme ça, mais à mon avis, il faut prendre ces textes surtout comme des témoignages. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas inspirés, mais ça veut dire que ce n'est pas dicté. Si vous voulez. C'est pas dicté, oui.
Alors, si l'être humain est un ensemble uni, corps, conscience, souffle, ça va poser effectivement la question de la vie après la mort.
Exactement.
Parce que tout part. Ils sont en sortie d'Égypte. Dans l'Égypte, il y a le ba, il y a le ka, il y a le corps, tout ça. Bon, c'est très compliqué. Donc, il est possible que l'un sorte du corps, que le corps soit mort, que le ba soit vivant.
Exactement. Alors là, on va voir un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15. Il y a ce genre de question qui apparaît et qui est intéressant de savoir d'où vient cette vie qui serait éternelle dans l'homme et comment ça se passe finalement. Et là, je crois qu'effectivement, Paul est quand même pas mal en dialogue critique avec une pensée plus orientale ou plus grecque ou plus... Vous voyez, c'est sûr, hein, quand il va parler des deux Adams et puis de l'émergence d'un homme spirituel. Alors, 1 Corinthiens 3, j'ai gardé ça, si vous voulez, parce qu'il y a... on parle un peu de notre futur, voyez, en particulier avec ce que j'ai souligné, qui a un rapport avec ce qui est de l'ordre de l'éternité ou quelque chose comme ça, voyez. Le jour la fera connaître, l'œuvre de chacun. Alors quand on dit le jour, c'est le jour du jugement, c'est le jour décisif en fait, où c'est la fin des temps, le jugement, etc. Bon. Cela dit, il faut relativiser, si vous voulez, cette notion de jour, c'est-à-dire de moment où on passe de l'univers présent à l'univers futur, au monde futur. Il faut le relativiser parce que, en particulier en Jésus-Christ, l'annonce principale, c'est que le royaume s'est approché. Et donc nous sommes dans ce temps du jour qui est venu, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? On est à la fois, on est dans un temps de transition. Il y a la vie en ce monde, dans ce temps, et déjà, le jour de la venue du royaume est déjà arrivé. Mais il est encore en train de venir. Si vous voulez. Donc il y a un glissement. Oui ?
Un tunnel.
Oui, un tunnel dans un sens où c'est comme, par exemple, si vous voyez, le train entre en gare, on dit l'express de 11h12 est en gare, mais... Il y a la locomotive, puis peut-être un ou deux wagons, mais bon, il y a encore des wagons qui sont à 200 mètres et qui sont encore en train de venir. Donc, il y a un glissement, si vous voulez. Hein. Ah, donc, le jour la fera connaître. Et donc, qu'est-ce qui subsiste, vous voyez, au verset 14, ou qu'est-ce qui sera sauvé? Alors, Paul exprime notre être. D'abord, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes à la limite co-créateurs, co-créateurs avec Dieu. C'est quand même extrêmement fort hein, comme message. C'est magnifique. D'abord, ça traite Dieu d'ouvrier, ce qui est quand même pas inintéressant. Hein, Et puis, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça, c'est des images, si vous voulez, d'architecture. Et puis l'idée qu'on construit sur un fondement qu'est Jésus-Christ. Donc là, y a quelque chose, à mon avis, qui est intéressant, c'est que c'est une vision, pareil, progressive, si vous voulez. Un champ, ben, ça pousse, il faut arroser, il faut semer, il faut... Et il y a une vision dynamique, une vision de progression. Alors, ce qui nous est donné, c'est un fondement, des fondations, ou un terrain, un terreau. Dessus, on sème, on arrose, on soigne, comme les plantes, et puis ça pousse. Et puis... Donc, vous voyez, le meilleur, il est à venir. Donc, c'est une vision plus positive de l'histoire. Alors que parfois, on présente les choses comme Dieu a tout créé parfait dans le passé, et puis l'homme a tout cassé avec la chute, et puis il faut rétablir, il faut réparer, restaurer, nettoyer, etc. Là, c'est une autre vision, si vous voulez. On nous donne un fondement, une fondation, et puis ensemble, Dieu et nous, nous construisons dessus avec une vraie liberté, visiblement. Alors, nous n'avons pas la liberté du fondement. Personne ne posait un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. En même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Même l'athée le plus des athées ou le plus païen des païens, adorant je ne sais quel dieu ou quel principe, il ne peut pas poser d'autres vrais fondements que Jésus-Christ. Donc il y a une grâce, oui, qui est donnée. Ensuite, on peut construire avec du foin. C'est un peu rigolo, je trouve. Hein. C'est un peu l'histoire des trois petits cochons, si vous voulez. Ils ont copié sur les trois petits cochons.
En fait, le monde est en création.
Voilà, le monde est en création. Et nous-mêmes aussi, nous sommes en genèse, en création. Et ça, à mon avis, c'est quand même une idée fondamentale. Quoi ?
Ça n'a jamais cessé. On est toujours en
création. Le monde est en chantier. Et nous sommes en chantier. La création parfaite, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, hein. Elle est plutôt à venir. Voyez, elle n'est pas dans le passé avec l'homme qui aurait tout. Et donc la Genèse, dans le récit de la Genèse, ça présente, si vous voulez, plutôt le futur. Ou plutôt ça présente ce qui est en train de se passer avec Dieu qui est à l'œuvre en train de créer le monde et de créer l'humain. C'est ce que disait Théodore Monod, nous sommes pré-hominiens, c'est-à-dire que nous ne sommes même pas, puisque l'homme, c'est le Christ. L'Adam véritable, c'est le Christ. Donc l'Adam n'a pas encore été créé, sauf en Jésus de Nazareth. Mais pour nous, ce n'est pas du passé avec quelqu'un qui aurait cassé le truc, c'est de l'ordre de l'avenir. Et donc le péché originel, c'est plutôt le péché fondamental qui consiste à se prendre pour Dieu et donc à empêcher cette genèse de l'homme, finalement. Ou la troubler, ou la gêner. Mais, il dit, lui, Paul dit, ensuite on n'est pas forcément d'accord avec lui, il peut y avoir d'autres témoignages différents hein, dans le Nouveau Testament, peu parle aussi clairement que Paul, si vous voulez, il explicite pas mal. Donc, on est un être en genèse, et une humanité en genèse aussi, parce que l'œuvre, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est pas seulement l'être humain individuel, c'est aussi une humanité nouvelle, c'est aussi une famille, c'est aussi une église, c'est aussi des associations, enfin voilà. Donc le fondement, c'est Jésus-Christ. Je trouve que c'est assez beau, ça veut dire qu'on n'est pas dans un enfermement, si vous voulez. Le être en Christ, c'est pas de l'ordre de l'obéissance, bien rester dedans. Non, c'est bâtir là-dessus, et puis ensuite, vous voyez, c'est un point de départ. Et donc, il n'y a pas d'enfermement, il y a au contraire un soutien pour avancer, une opportunité de grandir. Et puis finalement, il y a une humilité extraordinaire. Dieu est ouvrier, mais en même temps, le Christ, c'est un marchepied, si vous voulez. C'est un terreau par rapport à la plante. La plante, c'est vivant, ça monte vers le ciel à l'extérieur, alors que la terre, ça reste au ras du sol, si je puis dire. C'est même pire que ça. La terre, c'est terre à terre, alors que la plante, elle s'élève. Donc vous voyez, le Christ là est présenté pour nous comme quelque chose de très, qui se fait très basique pour nous, pour nourrir notre croissance.
Mais la plante, elle a besoin de la terre.
Ah ben oui, ça complètement, hein. Donc c'est
pas que, hein. Elle a besoin d'eau.
Oui, elle a besoin de choses matérielles, de choses tout à fait matérielles.
Voilà. Et donc,
il faut pas s'envoler, quoi.
Ah, oui, parce que le grain de blé, si vous voulez, ou le chêne, qui dans un effort formidable veut s'élever et s'arrache hors de terre. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais... Le grain de blé ou le chêne qui arriverait dans un effort formidable de volonté s'arracher hors de terre pour vouloir monter au ciel, ben, ça ne va pas lui réussir. Mais peut-être c'est ça le péché originel, voilà, le péché fondamental, le péché qui est à l'origine.
C'est de vouloir être Dieu, en fait.
C'est de vouloir être Dieu, s'arracher hors de la fondation et du coup se rendre compte, mince, mais je suis hors sol et je suis coupé de la vie. Voilà, c'est ça. Oui, c'est rigolo. Et donc Paul dit, voilà, si vous bâtissez n'importe comment sur cette fondation, votre œuvre, elle risque d'être complètement ruinée, si vous voulez. Si c'est tout en chaume, le feu fera connaître ce que vaut votre œuvre, mais quand même, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et ça annonce le salut de tous et de chacun, même si, au passage de ce salut, on va y perdre des plumes. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ce n'est pas très original de la part de Paul. C'est extrêmement fréquent dans la Bible que le jugement soit comparé à une purification. Les images qui sont données, par exemple, dans le psaume 1er, c'est celle très fréquente, en fait, c'est du vannage. Hein, le blé est battu dans l'air de battage, et puis ensuite, dans un vent, V-A-N, on sépare le grain de la balle, de la paille, pour garder le bon grain et puis jeter ce qui est de l'ordre du immangeable. Donc l'idée comme ça de séparation, elle peut se retrouver aussi dans la vendange, le pressoir, pour garder le jus. Elle peut se trouver aussi dans l'idée du minerai qui est passé au creuset. Vous voyez, le minerai, ça ressemble à quelque chose de tout terreux, tout moche. Eh bien, Dieu ne va pas cracher sur ce minerai tout moche et tout terreux. Il va le passer au creuset pour garder l'or et l'argent. Et donc, il y a l'idée, voilà, d'un jugement qui est comme passé au feu. Le feu, ce n'est pas considéré comme une torture, c'est considéré au contraire comme un agent de purification. Et en fait, ce jugement de Dieu, forcément, c'est l'amour de toute façon, parce que Dieu est amour. Donc en fait, c'est la bienveillance qui garde le meilleur de chacun, la moindre atome d'or, pour brûler ce qui est de l'ordre du terrestre. Voilà. Hein.
Donc, parce qu'en fait, le feu, ça donne de la lumière et de la chaleur.
C'est la lumière, c'est la chaleur, oui. Donc ça, il y a une mise en lumière, voilà. C'est aussi l'idée de... Voilà, ça associe aussi ça, c'est vrai.
S'il y avait des supplices par le feu, alors c'était pour le rendre mieux.
Là, alors ensuite, les supplices par le feu, non, c'était effectivement... Mais il y avait cette idée qui était derrière. Sauf qu'effectivement, le problème, c'est que quand on passe un hérétique sur le bûcher, alors on brûle l'hérésie... Est-ce qu'on brûle l'hérésie? C'est ce que justement Castellion critique Calvin quand il dit... Je suis désolé, mon gars, mais quand on brûle quelqu'un, on brûle un homme, on ne brûle pas l'idée, en fait.
Et en plus, on n'en laisse rien pour la résurrection.
Et en plus...
Bah, oui, je pense que c'est important dans le bûcher, ce qui reste pleuré, pour pleurer officiellement.
Comme le corps ne peut pas...
Le corps, en tout cas, est éliminé, mais je ne sais pas s'ils pensaient qu'on laissait quand même la possibilité aux condamnés de se repentir et de recevoir l'absolution, même si on continue quand même à l'exécuter, à le brûler. Donc je pense qu'il y avait quand même l'idée que peut-être, éventuellement, Dieu pourrait sauver le bonhomme, on ne sait jamais. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, si on, la peine capitale, si vous voulez, quand on brûle quelqu'un qui a commis une monstruosité... Effectivement, ça évite les accidents futurs de la part de ce bonhomme. Il ne va plus rien commettre d'autres crimes, ça c'est clair. Mais par contre, on élimine l'homme, c'est-à-dire qu'on élimine toute possibilité de progression. On élimine le monstre qui était dans cet homme, mais on élimine aussi ce qui était bien dans cet homme. Et c'est ce que, là, Paul a une bienveillance plus grande. Il dit peut-être que les œuvres sont complètement nulles, ça n'empêche que la personne elle-même... est regardé, considéré, retenu, gardé par Dieu. Et donc il y a une différence entre les œuvres et le bonhomme, ou la bonne femme. Il y a une différence, voilà. Et il dit, même s'il n'y avait rien de bon dans ce qu'a fait telle personne tout au long de son existence, il resterait quand même la personne. Que Dieu garde. ça va assez loin, si vous voulez, son idée, je pense. Hein, effectivement, c'est quand même... En même temps, on parle de récompense, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout ce qu'on a fait autour de sa vie et que rien ne reste. C'est un peu triste. Hein. Oui ? Mais sauf qu'on ne garde pas le crime, on ne garde pas le monstre, on garde ce que Dieu aime dans cette personne. Ben Hitler, c'est un bon exemple, c'est qu'on n'a pas tellement envie de croiser Hitler dans les couloirs du paradis, si vous voulez. Mais il ne sera plus Hitler. Il sera transformé, si vous voulez, à ce qu'était Hitler à 2 mois, c'est-à-dire un bébé qui a envie de vivre et qui a envie de grandir. Et voilà ce que, vous voulez, ce que je veux dire. Ça ne sera plus Hitler avec sa moustache. Hein. Mais bon, Hitler, c'est un mauvais exemple parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop envie. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, si vous voulez, c'est que Dieu garde en tout cas la personne. Et puis les œuvres, bah oui, quand quelqu'un est aussi nul qu'Hitler, et c'était largement, enfin, c'est quand même assez spectaculaire. Hein. C'est assez remarquable à ce point-là, à ce niveau-là, si vous voulez. Bah, il ne restera rien de ses œuvres. Voilà ce que je veux dire. Parce que là, c'est pire que du bois et du chaume, c'est vraiment du poison. Alors cela dit, les œuvres peuvent quand même subsister. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a l'idée qu'un acte d'amour nous survit, si vous voulez, dépasse notre finitude et a comme sa vie propre. Bon, mais il faut quand même avancer. 1 Corinthiens 12, si vous voulez, il y a l'idée, vous êtes le corps du Christ. Bon. Oui ? Alors ça, vous savez, ce que les hypothèses des exégètes, ça dure à peu près ce que durent les roses, si vous voulez. Ça fleurit un matin, c'est fané le soir. Hein. Ah non, mais ça peut tout à fait être vrai, si vous voulez. Ça peut être vrai, moi je sais pas, oui, on dit parfois qu'en particulier 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour... Ce serait récupérer un hymne, un poème, récupéré, et voilà. Mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui est un véritable sommet de la théologie et de la foi, moi, que je trouve tout à fait magnifique.
Je connais des athées qui trouvent ça magnifique.
Il y a des athées qui peuvent trouver ça magnifique, oui, tout à fait. Et puis il y a le fameux film Bleu, si vous voulez, hein, qui était autour de ça, hein, de 1 Corinthiens 13, je ne sais pas si vous avez vu. Le film Bleu. Ben, il y avait une trilogie bleu, blanc, rouge avec les
sœurs. Ah oui,
trois couleurs bleues, trois couleurs blanches, trois couleurs rouges. Ce film est magnifique.
Les trois.
Enfin, il est pas. Oui, c'est trois, oui. Mais bleu, c'est peut-être un des mieux.
Ah, moi j'ai bien aimé le rouge.
Ah oui. Ah oui. Bon, c'est vrai que c'est pas très drôle non plus, parce qu'il y a un peu un accident au début. Enfin, bon, c'est une autre question. Donc, vous êtes le corps du Christ. C'est peut-être pour compléter 1 Corinthiens 3 pour dire voilà. Chacun des membres est important, mais chacun des membres est important, mais il y a aussi l'ensemble qui est gardé, si vous voulez, ce que je veux dire. Le corps du Christ, il est constitué par des membres qui sont importants, mais il y a aussi dans son ensemble avec les liens entre les membres. Et ça, peut-être, c'est ce qu'on peut retrouver dans ce que dit Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ou je suis en eux, si vous voulez. C'est l'idée que dans les relations interpersonnelles, il y a là quelque chose qui est essentiel et qui reste aussi. Et c'est ce qu'on va voir dans 1 Corinthiens 13 après. L'amour demeure. Et pour qu'il y ait amour, il faut pas qu'il y ait fusion entre les membres. S'il n'y a plus qu'un seul membre, vous voyez, ils sont unis, dit Paul. Le corps est un. Mais il y a plusieurs membres. Si on ne fait plus qu'un seul membre, si on imagine, mais ça c'est un petit peu à mon avis polémique en particulier contre une vision peut-être grecque de l'unité, c'est-à-dire où dans la vie future, on rejoint une sorte de grande compote d'âme, si vous voulez, où il y a une fusion dans un tout. Là non, c'est plutôt l'idée... Puisque l'amour dure et compte, c'est les relations interpersonnelles qui restent en particulier comme quelque chose d'éternel. Pour qu'il y ait relation, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait... À la fois, il y a une unité par l'amour, en même temps, il y a des membres différents, une pluralité. faut pas qu'il y ait fusion totale. Il faut qu'il y ait des individus séparés qui soient liés par un lien d'amour. Et ce lien d'amour reste. Comprenez ? Il y a les individus qui restent et ces liens d'amour. Il y a les deux, finalement. Les membres, chacun des membres, et en même temps le corps. Et les liens, ces liens qui forment le corps, voyez ? Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc il y a quand même le chacun, il y a quand même le pluriel des membres. Voilà, c'est ça. Alors là, on retrouve notre esprit, si vous voulez, un seul esprit. Il doit avoir une majuscule, je ne sais pas pourquoi il y a un minuscule, si vous voulez, parce que c'est 12-13, là. Il faudrait un majuscule, les brevets d'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu, voilà. Qui à la fois, on est baptisé dans un seul esprit et on est abreuvé d'un seul esprit. Donc l'esprit, il est à la fois, on est plongé dedans, peut-être comme une purification, vous voyez, je ne sais pas, où on est, vous voyez, un nettoyage dans un sens, et puis il y a aussi quelque chose qui abreuve, qui nous nourrit, qui nous fait grandir de l'intérieur. Il y a un peu les deux, si vous voulez, dans l'idée peut-être du truc. Voilà. Alors il y a aussi là peut-être une vision de l'Église, vous voyez, il y a une pluralité des membres, il peut y avoir des théologies différentes, des façons de voir différentes, des charismes, des vocations différentes, des places différentes, mais il y a quand même une unité, mais je veux dire cette pluralité, vous voyez, ces différences, une pluralité, c'est pas quelque chose qui est considéré comme nocif. Au contraire, vécu dans l'amour, c'est une chance de... Ce pluralisme est une chance, une bénédiction, voilà, pour... Ça, je crois que c'est une vision aussi, si vous voulez, assez belle pour l'humanité, en laissant la place pour chacun, pour une différence de chacun, une façon de voir de chacun. C'est à mon avis, assez beau, assez vrai. Alors après 1 Corinthiens 13, on ne peut pas passer à travers. L'amour ne meurt jamais, ne tombe jamais. L'idée aussi de quand ce qui est parfait sera venu. Donc il y a l'idée, c'est pareil, il y a d'une progression, de la perfection. En même temps, bon, on connaît quand même partiellement, vous voyez. Donc la vie future, c'est ce que je vous disais avec le train tout à l'heure. On a déjà quand même une vraie conscience de ce qui est éternel, de ce qui est vrai, de ce qui est Dieu même. Même si c'est confusément, c'est pas étanche, si vous voulez, que la vie future. Il y a déjà une vision à travers notre conscience en ce monde, notre vie en ce monde, l'amour qui est vécu, une certaine forme d'espérance, une certaine forme de foi, de confiance. Ben, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la vie éternelle qui est vécu dans ce monde. Même si c'est partiellement, même si c'est un peu limité, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, qui est vécu maintenant, en fait. Voilà, mais bon, alors bien sûr, et ce que je trouve assez beau, vous voyez, c'est le verset 12, on voyait, « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ce « j'ai été connu », c'est très très fort, parce que ça veut dire, voilà, Dieu nous connaît, nous reconnaît, et finalement le secret de la vie éternelle, c'est l'amour en fait. Mais déjà, c'est l'amour dont j'ai été aimé en fait. Et ça, à mon avis, c'est assez fort, effectivement, l'équation est relativement simple. L'amour est éternel, c'est plus fort que la mort. Dieu nous aime par grâce, donc sans mérite de notre part, et par conséquent, Dieu nous garde pour la vie éternelle. C'est un peu l'équation, si vous voulez, de Paul, quand il insiste sur le salut par grâce, c'est un peu son équation, si vous voulez, le secret de la vie éternelle, c'est l'amour dont nous sommes aimés, c'est pas tellement l'amour dont nous aimons. L'amour dont nous aimons, il est de toute façon partiel, et c'est une bonne idée, effectivement, d'aimer, c'est ce qu'il nous propose, c'est rechercher l'amour, donc poursuivre cette voie, parce que c'est ce qui est vraiment le plus beau, le plus le plus créateur dans notre existence et dans ce monde, c'est de vivre comme ça, mais à la limite, c'est un plus. C'est que du coup, peut-être si on reprend 1 Corinthiens 3, nos œuvres aussi auront une dimension d'éternité et pas seulement notre personne, qui est de toute façon gardée par Dieu. Je pense que c'est peut-être chose comme ça. Donc trois choses demeurent. Quand il y a marqué « demeure », ça veut dire « demeure pour l'éternité » en fait. C'est pas simplement « dure 3 minutes ». La foi, l'espérance et l'amour. Donc on voit, si vous voulez, que ce qui demeure, c'est plutôt des qualités d'être. Et ça, ça change peut-être par rapport à une vision juive où le salut, c'était gagner des bons points et puis ensuite on fait un peu le bilan et puis on voit s'il y a amnistie, pas amnistie de nos fautes, si on a la moyenne. C'est un peu comme le bac à ce moment-là, ben, on a le ticket pour rentrer à l'université ou à Polytechnique. Si on ne l'a pas, ben, on est rejeté et puis on passe à la poubelle, si vous voulez. Donc c'est une vision, d'une sélection de la personne. C'est une question d'être inscrit dans le livre ou pas inscrit dans le livre. C'est une question d'avoir la moyenne, pas la moyenne. Avoir le ticket d'entrée, pas le ticket d'entrée. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il présente, si vous voulez. Ce qui est éternel en nous, c'est de l'ordre d'une qualité d'être. Et donc, c'est une qualité de façon de faire aussi, de façon d'être en ce monde, si vous voulez. C'est pas... Parce que la foi, l'espérance et l'amour, c'est pas pour gagner des bons points pour la vie éternelle. C'est la vie éternelle en nous, si vous voulez.
Monsieur, oui. Pensez-vous qu'il y a une connexion entre le subsister qu'on a lu dans 3:14
oui.
Et puis
le demeurer.
Le demeurer.
Et c'est le même verbe.
C'est ménène.
C'est ménène, c'est le même verbe, donc c'est la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Et ça pourrait être un verbe, c'est souvent un verbe assez banal en fait. Mais dans ce cadre théologique-là, c'est beaucoup plus lourd que ça, si vous voulez. C'est quelque chose qui demeure éternellement en fait. Il faudrait marquer « demeure éternellement ». Oui, c'est-à-dire quelque chose qui a vraiment, qui n'est pas de l'ordre du terrestre, du terrien, mais qui est déjà en ce monde et qui est plus fort, qui est inoxydable. Tout à fait. Je pense. Et si on voit finalement à la fin de ce cycle, un peu dans les évangiles, quand même, dans ce que dit Jésus-Christ, par exemple, dans le début de l'évangile selon Jean, hein, je pense en particulier au dialogue avec les premiers disciples, hein, dans le chapitre 1er, il est question de savoir qu'est-ce qui demeure. Vous voyez où Jésus demeure. La question, ce n'est pas de savoir si la maison dans laquelle il habite, elle a des volets bleus ou si c'est des volets rouges. Hein. C'est là où le Christ demeure, c'est vraiment ce qui est en lui est éternel, ce qui est de l'ordre de l'éternité en lui. C'est ça la question. Ouais.
J'ai une autre question.
Oui, très bien.
Qu'est-ce qu'on fait avec le virage ici entre la foi, l'espérance et l'amour.
Oui, oui.
Parce que, bon, en bon protestant, on pourrait dire que c'est pistis, mais vraiment la foi.
Mais c'est ça.
L'amour qui...
Oui. Absolument. Mais c'est-à-dire que l'amour... commençons par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi, finalement? C'est une recherche, en fait. C'est pas donc une connaissance, hein, on le voit, il y a de la connaissance qui peut être en jeu, mais ça, il dit, bon, c'est partiellement, et c'est même pas dans la liste, hein, la connaissance. Hein. Le connaître sera temporaire, donc il n'est pas complètement faux, mais il est temporaire, machin, bref, il est un peu obscur. Non, c'est la foi, c'est la recherche, c'est cette dynamique, mais il peut y avoir une recherche, il peut y avoir de la foi sans amour, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une recherche purement intellectuelle ou purement pour faire son salut, avoir son salut, c'est pas par amour, c'est par intérêt à ce moment-là. Et donc, ce qui est important, c'est cet amour, c'est-à-dire une volonté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour ici? C'est dans la Bible, en général, quand on parle de l'amour, c'est pas de la sympathie ou de l'amitié. C'est pas du sentiment, c'est plutôt une volonté de bien pour l'autre. Et donc, c'est l'amour... C'est de l'intérêt pour eux, c'est vouloir faire du bien à Dieu, à la limite. C'est pour Dieu, c'est l'amour de la vie, finalement aussi. Quelle espérance, c'est de l'amour de la vie. Hein. C'est de dire, quelque chose qui vaut la peine, voilà, quelque chose qui vaut la peine, quelque chose qui...
Ça donne de la qualité à la fois.
Qui donne la qualité à la fois, ça donne de la qualité à la fois, c'est ça en fait.
Sans nous, les autres.
Et l'amour donne de la qualité à l'espérance, c'est pas simplement de l'espoir que les choses vont s'arranger, c'est se dire, ben, je sais pas c'est qui, c'était Malraux, je sais pas qui disait, ben, si je savais que j'allais mourir ce soir, ben je planterais un arbre, si vous voulez, non ? C'est qui qui a dit ça ?
C'est Luther.
C'est Luther qui a dit ça ?
Je planterais un pommier.
Planter un premier, si c'est Luther, bah, il y a mes pattes. Alors le Luther, il est quand même mieux que ce que je pensais.
Mais je l'ai lu dans...
Mais c'est super. Hein.
Je l'ai lu dans un... Non.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je demanderai à mon ami Google. Ça. Mais en tout cas, c'est
attends,
vrai.
Mais,
quoi.
Mais, je peux vous citer mes sources et le culte
non, mais...
dont mon père se servait tout le temps. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois.
Non, mais c'est super. Alors.
Que je l'ai lu depuis des années.
Non, mais vous avez raison, sûrement. Et donc... c'est ça, vivre avec amour, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cette grâce, c'est... Voilà.
Avec le mot amour, les gens confondent tout.
C'est vrai que les gens, ils prennent ce texte pour leur mariage en se disant que ça parle de la Saint-Valentin. Si vous voulez. En fait, ça ne parle pas de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est en plus l'amour, le sentiment amoureux, le plaisir d'avoir l'autre pour soi. Ça complète, finalement. C'est ce qui donne du sel, ce qui donne de la joie extraordinaire à vivre avec... avec l'autre et avec les autres. Mais cet amour ici, c'est autre chose. C'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui est par grâce, vous voyez, qui veut le bien de l'autre. Et à mon avis, c'est ça, effectivement, qui donne une qualité à la foi et à l'espérance.
Ah oui, c'est très beau tout ça, mais quand même, c'est pas par l'amour qu'Abraham est justifié. Hein?
C'est par la foi et la qualité de sa foi, peut-être. C'est ça. Et puis la justification, c'est encore autre chose que le demeurer et le salut, si vous voulez. Peut-être, hein, c'est encore un peu autre chose. La justification, c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est juste dans notre existence, dans notre démarche, dans notre être. Mais l'amour, c'est encore au-dessus, c'est encore autre chose que ça. C'est l'amour, c'est reconnaître l'autre, c'est reconnaître, aimer l'autre, même s'il n'est pas juste, à la limite. C'est justement ça, l'amour. Et donc maintenant, un Corinthiens 15, ben, donc, il parle au début de la résurrection du Christ. Alors, l'évangile, c'est ça, finalement, nous dit-il. Alors, d'abord, il y a quelque chose que j'ai corrigé, j'ai rayé, qu'il est ressuscité. Souvent, c'est ce qui est marqué. Mais en fait, première chose, c'est que ressuscité, ça n'existe pas en grec, en fait. C'est pas... Parce que ressuscité, on imagine un retour à la vie. Mais c'est pas ça. La question, c'est pas que le Christ a été réanimé, si vous voulez. Réanimé, c'est effectivement, il est mort, et puis on lui passe au défibrillateur, et puis... Le cœur se réveille et puis il remarche sur ses pieds. Il y a un retour à la vie. Mais ce n'est pas ça. Il a été demi-debout, vous voyez. C'est un état de vie qui n'avait... Il n'y a pas l'idée de retour. Hein. C'est l'idée d'être mis debout, d'être mis en route, d'être éveillé. Même pas réveillé. Vous voyez. Et puis deuxièmement, c'est pas... C'est un passif. Il a été ressuscité. Ou il a été mis debout. Et donc c'est quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur, dont on est le bénéficiaire. C'est pas quelque chose avec nos petits bras musclés, comme l'arbre dont je parlais tout à l'heure, avec un effort formidable de volonté, je me ressuscite. Non, je suis ressuscité, je suis mis debout, éveillé. Alors j'ai pas corrigé dans tout le reste du texte, chaque fois qu'il y a ressuscité, ici c'est se mettre debout. D'autres fois, il y a un verbe, l'idée de se réveiller, c'est-à-dire, voilà, on était peut-être pas né ou encore endormi, comme un enfant peut l'être, avec des yeux fermés à la naissance, ben, qui peuvent s'ouvrir. Alors, en fait, on remarque le Christ qu'il a été ressuscité, on le remarque parce qu'en fait, il y a des gens qui en sont témoins, donc en fait, c'est surtout un Christ qui est ressuscitant, en fait. Comprenez ? La preuve de la résurrection du Christ, c'est qu'il y a des gens qui sont mis en vie, qui sont éveillés, qui sont Voilà, et ça on peut le voir au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Donc c'est l'idée, « Je suis ce que je suis », c'est assez fort, parce que « Je suis ce que je suis », c'est un peu la révélation du buisson ardent, vous voyez, c'est Dieu, il dit « Je suis ce que je suis hein ». C'est pas tout à fait comme ça en grec, là, il y a « Eimi o eimi », mais en fait, dans les Septante, pour le buisson ardent, c'est « Ego eimi o on », « Je suis l'étang », finalement. Mais en hébreu, c'est assez ça, c'est « Eimi o eimi », en fait, le « Je suis », le « je suis » d'Exode 3.14. Et c'est par la grâce de Dieu, donc vous voyez, c'est comme un souffle qui l'a rendu vivant. Alors ensuite, on voit encore qu'il y a une diversité au verset 11, vous voyez, que ce soit moi, que ce soit les autres, voilà ce que nous prêchons. Donc il y a, voilà, il y a des différentes prédications dans l'Église, différentes théologies, différentes sensibilités, mais bon, nous témoignons tous qu'en Christ, il y a quelque chose qui nous rend participants à la vie divine, vraiment par grâce, et que là, il y a quelque chose qui nous transforme, qui nous met debout, qui nous ressuscite. Et donc, des fois, il y a le mythe, si vous voulez, qu'il y avait une unité de l'Église au début, et on représente souvent l'Église chrétienne comme un arbre, si vous voulez, comme un seul tronc qui part de Jésus-Christ, et puis plein de branches qui s'ouvrent, comme s'il y avait au début une unité des apôtres, mais pas du tout, c'est pas comme ça. C'est plus l'arbre de la foi chrétienne, il ressemble plutôt aux arbres qui sont dans les mangroves, vous savez, avec un million de racines. Il y a eu un peu un moment d'étranglement au moment de l'empereur Constantin qui a dit, écoutez, maintenant, pour des raisons politiques dans mon empire, on va essayer de blinder un peu le truc, que les gens, de forcer une unité. Donc au IVe siècle, ils ont essayé de forcer une unité avec des conciles, avec des... Constantin, il n'est pas un grand théologien, hein, l'empereur. Il a dit, écoutez, il a réuni les évêques, il a dit, écoutez, maintenant, vous décidez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais en attendant, vous vous mettez d'accord, et comme ça, il va y avoir une unité, vous voyez.
Une
quoi?
C'est une abstraction.
C'est un peu une abstraction. Donc il n'y a pas eu d'unité au départ, il y avait une pluralité, il y avait le Christ unique, mais il y avait des témoignages différents sur lui, des prédications différentes du temps de Paul. Ça, c'est des textes qui sont... Puis on le sait, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Paul, il y avait les Étienne, il y avait les autres.
Des quoi? Êtres humains. C'était des êtres humains.
C'était des êtres humains, des sensibilités, des diversités, des options théologiques, christologiques. Et puis il y a les questions de pouvoir qui, effectivement, ça commence à jouer aussi. Ça, c'est clair. Et donc, vous voyez, il dit, pourquoi certains disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts, verset 12. Ben oui, c'était discuté à l'époque. On le voit avec Jésus, c'était discuté sur l'Ancien Testament, entre les Sadducéens et les Pharisiens. Comme je vous disais hier, la dernière fois, la semaine dernière, sur l'Ancien Testament, c'est très discuté de savoir s'il y avait une vie future ou pas de vie future. Des gens disaient oui, d'autres disaient non. Mais dans l'Église chrétienne aussi, il y a des gens qui disaient non, il n'y a pas de vie future, d'autres qui disaient si, il y a une vie future. Les chrétiens aujourd'hui, je crois qu'il y a 40% des gens, si on leur demande honnêtement, en disant, on le répétera à personne, est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort, 40% des chrétiens disent non, je ne crois pas en fait.
Père Brune, il y croit.
Qui?
Le Père Brune.
Il y a des tas de gens qui y croient, heureusement. Oui. Non, mais il y a des tas de gens qui y croient. Mais ensuite... Ah d'accord. Non, mais il y a des gens qui... Il y a 60% des gens qui y croient quand même. Et la doctrine officielle, et à mon avis, le Christ, Jésus-Christ, il y croyait. Et il dit, si, il y a une vie après la mort, vous en occupez pas trop, mais il y en a une. Et là, Paul, lui, il rigole pas, il dit, si, il y en a une. Donc, grosso modo, le Nouveau Testament, il dit, oui, si, il y en a. C'est clair. Et Paul, il dit que si, il y en a. Mais bon, vous voyez, c'était discuté dans l'Église primitive, il y a des gens qui disaient oui, d'autres non, et aujourd'hui, maintenant... Si on n'y croit pas, on n'est pas forcément mauvais chrétien ou pas chrétien pour autant. Hein. On fait comme on peut. Hein. On peut avoir des opinions diverses même là-dessus. Vous voyez, déjà, ça existe à l'époque.
Il n'y a pas de personne qui revient. Il n'y a pas de preuve.
Alors, c'est une question de foi. C'est une question... Puis je dirais que c'est une question aussi de relativement abstraite. Parce que, comme ils insistent tous pour dire, de toute façon, C'est Jésus qui dit, à chaque heure suffit sa peine, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa question. La question présente, aujourd'hui, c'est de savoir comment on vit aujourd'hui cette qualité d'être qu'est la foi, l'espérance et l'amour. On nous dit, c'est ça qui éternise le temps présent, donne vraiment du poids, de la valeur. Si en plus c'est inoxydable et que c'est plus fort que la mort biologique, bah écoutez, tant mieux, nous verrons bien. En attendant, nous disent unanimement tous le Nouveau Testament, et même aussi l'Ancien, ça donne du poids, de la valeur à notre existence présente, et que c'est quand même pas mal.
L'éternité, en fait, c'est une question de qualité, c'est pas forcément une question...
C'est une question de qualité, oui. Alors en plus, à mon avis, il y a une question de durée au-delà du temps fini.
Déjà...
Sauf que si vous voulez, les scientifiques diraient que de toute façon, en dehors de la matière, il n'y a pas de temps.
Ben voilà.
Donc qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang quand il n'y avait pas d'espace? Eh bien, il n'y avait pas de temps non plus. Donc on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y avait 2 secondes avant le Big Bang, et il n'y avait pas 2 secondes avant le Big Bang. Parce qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps non plus. C'est l'espace se crée avec le temps. Le temps est une dimension matérielle, ce n'est pas une dimension transcendantale. Il faudrait demander aux philosophes. Hein. Parce que ça, David Leduc est...
C'est discuté.
C'est discuté.
C'est discuté.
Moi, là, je parlais en scientifique. Hein.
Parce que, oui, ça, c'est la position scientifique, mais en phénoménologie, il y a l'intratemporalité, c'est-à-dire habiter à l'intérieur du temps, et ce n'est plus dans la temporalité chronologique.
Ah ben ça, c'est très Nouveau Testament, ça, quand même. C'est assez proche.
Oui, c'est très proche. Ça vient de Paul, en fait.
Oui.
C'est la relecture heideggerienne de l'eschatologie paulinienne. En fait, ça vient de là.
Donc, c'est ce que vous disiez, Mme Kalanka, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la qualité d'être dans le temps présent, il y a une éternisation du temps.
Il peut y avoir des moments d'éternité.
Il peut y avoir des moments d'éternité dans notre vie. Voilà. Alors ensuite, bon, il faut avancer peut-être plus vite parce que sinon on ne s'en sort pas sur ce texte. Le Christ, vous voyez, est ressuscité des morts, il est des prémices de ceux qui sont morts. Donc la résurrection du Christ, la question ce n'est pas de savoir, Christ est ressuscité, tant mieux pour lui, si vous voulez. C'est que ça nous concerne directement, c'est que ça parle. La résurrection du Christ est une résurrection à vivre pour nous aussi aujourd'hui et maintenant en fait. Donc c'est pour ça qu'on est concerné d'aussi près par cela. Et comme tous meurent en Adam, au verset 22, de même aussi, tous seront vivifiés en Christ. Alors, vivifiés, mais vous voyez, il n'y a pas marqué tous ceux qui sont bien sages ou tous ceux qui auront l'absolution par le pasteur. Dommage, parce que je pourrais... Si c'était marqué, on mettrait un ticket ici et puis on vendrait le ticket. Voilà, et notre trésorier n'aurait pas de souci à se faire pour finir le budget.
Pour l'orgue.
Ou pour l'orgue. Il y a marqué « tous seront vivifiés ». Il n'y a pas marqué « sous condition ». Eh non, mais quand même, il y a donc ça c'est pour tous. Hein. Et pour tous. Hein. Donc on retrouve ce que disait Paul, si vous voulez, plus haut, dans le texte d'avant. Hein. Tous. Mais chacun en son rang, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions de timing, en fait.
C'est timing.
À mon avis, c'est timing. On pourrait le voir.
Voilà.
On pourrait voir ça, ce serait assez évangile, disant il y a des grands et des petits dans le royaume de cieux. C'est ce qui est marqué dans l'évangile. Hein, il y a marqué Jean-Baptiste, il est super. Ben, le plus petit dans le royaume des cieux est quand même plus grand que lui.
Oui. Donc ça veut dire que là, il y a une économie de grandeur selon les qualités.
Il y a une économie de grandeur selon les qualités, oui. Alors que là je ne suis pas si sûr. Peut-être, voilà. On entre plus dans le thème de la justification ou de cette croissance dont on parlait, hein, de l'arbre qui grandit, de la maison qui se construit, des choses comme ça. Mais là, je pense que c'est plus, vous voyez, parce qu'on parle Christ comme prémisse, et puis ensuite, et puis ensuite, et puis ensuite. Donc j'y vois plus, là, dans le temps, il me semble que c'est ce que dit le texte, chacun à son tour. Vous voyez, il y en a qui... Alors peut-être c'est aussi dans notre existence, ça se développe peut-être dans notre existence, il y a déjà quelque chose de nous qui est dans la vie éternelle, qui est vivifié en Christ, ne serait-ce que par infusion de cette fondation qui est commune à tous, hein, parce qu'on est, qu'on le veuille ou pas, on le veuille pas, il y a quelque chose qui vient de Dieu et qui nous donne vie, quoi, si vous voulez, même si on ne le sait pas. Et puis ensuite, eh bien, ceux qui appartiennent au Christ, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment consciemment enracinés au Christ et tout, bah, il y a quelque chose qui s'infuse plus profondément, plus vivement, plus, hein, et qui, quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de l'espérance et de l'amour, et qui les fait grandir. Hein, et donc, ils sont plus rapidement. Voilà. Et puis, dans l'aboutissement, l'aboutissement des temps, peut-être aussi, mais l'aboutissement de chacun. Souvent, cette idée d'aboutissement, ou bien en hébreu, c'est un peu le shalom, si vous voulez. Le shalom, c'est la paix, mais c'est aussi l'aboutissement de la personne, l'achèvement d'une construction.
L'accomplissement,
l'aboutissement d'une construction. Le shalom, c'est ça, c'est une paix intérieure, c'est une paix avec les autres, mais c'est aussi un état stable, abouti. Et donc, c'est un peu ça, peut-être.
C'est une belle image.
Oui. Alors là aussi, on parlait d'une création en Genèse. Là aussi, on le voit très bien. Vous voyez, pour l'instant, finalement, il y a ce développement du règne de Dieu, avec cette puissance de Dieu qui est encore relative, hein, parce qu'il n'a pas domination sur tout, et c'est plutôt à l'aboutissement qu'il aura une toute puissance. Et c'est un des seuls passages où réellement dans la Bible on parle de toute puissance de Dieu, ici et avec l'Apocalypse, quand on parle de la fin des temps finalement. Mais pour l'instant, Dieu n'est pas tout puissant, c'est ce que dit la Bible en fait. Hein. C'est sûr, donc comme on dit, il y a une genèse, le monde est encore en genèse, et donc il y a encore du chaos dans l'existence, et puis cette puissance de Dieu, elle est à venir, elle est en train d'arriver, mais voilà.
C'est un grand chantier.
Un grand chantier. En chantier de vous connaître, comme on dit.
Oui, c'est tout ça, oui, comme Saint Paul le dit.
Le monde est en train.
Est-ce que c'est pas un grand chantier de la connaissance de soi, de la compréhension de
soi. Ah ben ça, sûrement.
Parce que là, Saint Paul...
Oui, c'est bien ce qu'on voit dans le Corinthiens 13, là, oui.
Met en tension...
Mais il y a le monde aussi. Il y a ce grand chantier de nous-mêmes, nous sommes ouvriers, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice. Il y a aussi la construction de nous-mêmes, de notre connaissance, de l'humanité comme un corps, et puis même de la création tout entière. Hein. Elle souffre les douleurs de l'enfantement et elle attend avec une impatience la manifestation de Dieu et des enfants de Dieu dans ce monde. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. C'est vraiment à ce moment-là, il y aura la toute-puissance, d'accord. Mais il y a beaucoup de passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien, il n'y a jamais une seule fois toute-puissance, ça c'est clair. Quand on traduit tout-puissant dans l'Ancien Testament, c'est un mensonge du traducteur. Il y a marqué tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas marqué tout-puissant. Il n'y a pas le tout, en tout cas, de tout-puissant. Même dans le Nouveau Testament, les évangiles, il n'y a jamais tout-puissant. Même le tout-puissant fait pour moi des merveilles, il n'y a pas marqué tout-puissant, il y a marqué odunatos, c'est le puissant. Que Dieu est une puissance, on est tous d'accord.
Ah, c'est ça, puissant, mais sans tout.
Il n'y a pas marqué tout, c'est un fantasme du traducteur qui a mis ça. Tout puissant, ici il y a tout puissant, ici. Il faudrait regarder David, verset 25, à la fin du 25, je pense qu'il y a
Pantocrator, c'est pas vraiment puissant, c'est gouvernant, comme dans une démocratie.
Oui, mais il y a quand même le... Oui, toute gouvernance, c'est peut-être toute gouvernance, ici. Mais il y a quand même le panto. C'est la fin de 1 Corinthiens 15, 25. Hein.
Okay, 25. Voilà. Dynamine. Voilà.
Il n'y a pas tout là ?
Il n'y a pas, c'est Kai, tout, c'est Kai, dynamine. Il n'y a pas tout.
Il n'y a même pas tout ici.
Mais on a plutôt Panta.
Non, mais au début, il n'y a pas toute autorité ?
Non, c'est toute autorité, oui. Panta, exousian.
Ça, c'est une puissance, l'exousian.
Oui. La puissance, c'est dynamine. C'est dynamine.
L'exousia, c'est l'autorité. Oui, oui, oui.
C'est toute autorité.
Et puissance.
Et puissance. Bon, je veux voir un peu la.
Mais toute puissance, ça existe dans 1 Corinthiens. Je ne sais pas exactement où, mais il faudrait que je recherche. Hein.
C'est en fait, dans la traduction, le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. Mm.
C'est ce qui est. Oui, dit. C'est ça.
Il remettra le royaume à Dieu, le Père.
Donc quand il aura tout à ses pieds. Donc là, il y a une grande distinction entre Dieu et le Christ. Hein, ils insistent bien sur une distinction entre les deux. Mais bon, pour terminer, ce qui est peut-être rigolo, si vous voulez, c'est de dire comment les morts ressuscitent-ils, hein? Et donc il y a l'idée, vous voyez, que pour l'instant, donc on est d'abord créé comme être naturel, comme être terrien, biologique, psychique. Et ensuite, le spirituel vient après. Et que finalement, on ressuscite comme un corps, mais comme un corps spirituel. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord, il y a un peu une polémique contre les pensées grecques, où l'être humain serait, vous voyez, il y a une âme éternelle qui est détachée, qui tombe, qui chute dans la terre. Et ensuite, l'objectif, c'est que cette âme, cette partie divine de l'homme, puisse ressortir de la matière pour rejoindre Dieu. Là, il n'y a pas ça. La vie en ce monde, la vie humaine, n'est pas un accident regrettable, si vous voulez. Au contraire, on est parti, ce qui est premier, c'est le terrestre, et puis il y a cette émergence d'une conscience et d'un être tout neuf qui est éternel. Donc l'éternité, elle est vers l'avenir, elle n'est pas vers le passé. C'est un être tout neuf. Alors le corps, nous ne sommes pas en ce moment une âme qui est versée dans un corps, comme pourraient le penser certaines théologies. Parfois, on le verra peut-être la prochaine fois, comme une âme versée dans un vase d'argile, si vous voulez, un trésor dans un vase d'argile. On n'est pas une âme qui est versée dans un corps. On est un corps. On le voit bien là. On est un corps qui ressuscite. Et c'est le corps spirituel qui reste vivant. Et il dit, ben, faut pas rigoler, c'est pas la viande qui est pourrissable, qui ressuscite. Vous voyez, c'est clair que le salut, si vous voulez, c'est pas une question de chimie des protéines. C'est un corps spirituel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est un peu une image, parce que s'il n'y a plus de matière, il n'y a pas de corps. Mais si, à mon avis, le corps, ça représente un espace qui est interne, qui est moi et qui est personne d'autre dans l'espace matériel. Et le corps, c'est aussi avec ça que je suis en interface avec l'extérieur, avec le monde, par les yeux, par l'audition, par le goût, par le toucher. Et puis mon corps porte la trace de ma personnalité, des cicatrices de l'existence. Et puis si je me muscle, j'ai un corps plus fort. Donc le corps, c'est l'être individuel, personnel, qui est en relation avec les autres. C'est ça qui reste, à mon avis, si vous voulez, dans la vie éternelle. On reste un individu personnel, avec son histoire, avec son individualité. C'est d'abord ça, finalement. Mais nous serons changés, si vous voulez. C'est-à-dire, on est transformés, on n'est pas... c'est autre chose, c'est une autre... réalité, autre dimension. Alors ça aussi, si vous voulez, c'est très 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 classique dans la théologie hébraïque, théologie biblique. Quand on dit, puisqu'on parlait du jugement, si vous voulez, comme par exemple une moisson, des grains de blé, le vanage qui est une idée du jugement, on garde les grains de blé, ensuite c'est moulu, il y a le levain et ça fait du pain. Le pain, ça a un autre goût que le grain de blé, mais ça n'empêche... il y a quelque chose du grain de blé qui reste, et voilà. Ou alors l'idée du grain qui est semé en terre, ça on le retrouve dans l'évangile aussi, semé en terre, il meurt en tant que grain et il devient une herbe verte qui pousse. En même temps, c'est pas sans rapport avec le grain de blé, mais c'est en même temps tout autre. Le grain de blé en terre, il pouvait pas imaginer ce que ça pouvait être que de sortir à l'extérieur, d'être vert, d'être au soleil, à la pluie et de pousser. C'est inimaginable pour le grain de blé. Donc pour nous aussi, c'est inimaginable comment nous pouvons vivre dans la vie future. Donc on peut toujours philosopher dessus pour dire comment c'est possible, comment est-ce que ça se vit. toute façon, ça reste abstrait pour nous. On n'a pas de mots pour parler de cette expérience, de toute façon. Sauf que, nous dit Paul, ce qu'on peut vivre et voir en ce moment par l'esprit, c'est pas sans rapport. On voit quand même confusément, et c'est là que c'est pas simplement une abstraction totale et pure, si vous voulez. Ça, je crois que c'est important quand même.
Je trouve que c'est une intuition très remarquable de Paul, parce que ça nous permet de comprendre que notre propre subjectivité au sens personnel est toujours tournée vers ce qui la donne de se connaître elle-même. Donc comme si il y avait un mouvement qui est hors de moi, mais qui est en moi aussi, mais qui me donne à moi-même.
Oui, oui.
Donc qui fait que je suis toujours tourné vers le futur, toujours potentiellement.
Ouais,
potentiellement,
c'est ça.
On est toujours orienté vers le futur.
Voilà, voilà.
Merci.
Mais c'est vrai que c'est pas une abstraction pure de dire que l'amour est plus fort que la mort. C'est quand même pas simplement une abstraction. C'est pas juste pour se rassurer face à la fragilité de l'existence. Quand on aime quelqu'un, par exemple, qu'à son corps. Bon, le corps est une bénédiction, d'accord. Mais si quelqu'un perd un bras, par exemple, objectivement, son corps vaut moins, quoi. Il est moins puissant, il peut plus couper son beefsteak, il peut pas beurrer sa tartine. Donc il est moins performant et il vaut moins au point de vue poids, au point de vue efficacité. Et pourtant, pour ceux qui aiment, la personne ne vaut pas moins pour autant. Ça change absolument rien à l'amour que ceux qui l'aiment vont lui porter. Donc on s'en rend bien compte que l'amour ou la valeur de la personne n'est pas simplement le corps, mais qu'elle réside dans une qualité de relation.
Et l'amour qu'on a reçu, il reste dans notre mémoire bien longtemps, des années.
Après. L'amour qu'on a reçu, il reste dans notre mémoire bien longtemps, après des années. Il peut même rester dans notre qualité d'être. Mais pas fatalement. Surtout si on le rumine et qu'on transforme cet amour qu'on reçoit en gratitude, par la gratitude, peut-être en qualité d'être. On se laisse créer, on se laisse... créé par cet amour. Mais ça, c'est vrai que quand ça marche encore mieux, quand il y a la participation à cet amour, quand on s'en saisit finalement pour le ruminer, pour se laisser construire par ça. C'est là peut-être qu'on peut être co-créateur de son être, ou co-participant à la grâce finalement, non ? Quand on se saisit de cette grâce consciemment, on décuple les effets. Bon, bah écoutez, donc la semaine prochaine, je pense qu'on continuera un peu dans les épîtres et qu'on prendra les évangiles pour la fin. Donc je pensais peut-être la deuxième lettre aux Corinthiens, il y a un passage où il y a marqué que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Peut-être un peu Éphésiens, peut-être aussi première lettre de Jean avec l'idée « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu et donc est dans la vie éternelle ». Voilà, donc bonne semaine et puis peut-être à mercredi prochain si vous êtes encore par là.
Merci.